Ouellet.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio. Radio. X.
Midi 53 minutes. On va aller voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe dans le monde, je vous dirais, depuis hier, c'est pas mal le plan de paix qui a été proposé. Et là, il y a des gens qui le disent du bout des lèvres, mais on est obligé de le dire. C'est le plan de Donald Trump pour un retour à la paix. On souhaite une paix durable dans la bande de Gaza. Et là, ça serait confirmé. En fait, c'est confirmé. Selon tout le monde, le Hamas aurait accepté ce plan de paix-là. On va aller en jaser avec notre chroniqueur qui tombe bien. Là, il est toujours les jeudis, là, Benjamin Tremblay. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est un jeudi qui tombe bien. Monsieur Tremblay, vous êtes salué. Bonjour.
Salut, JC. Merci de me recevoir.
Toujours, toujours un plaisir, et tu le sais bien. Écoute, je suis un peu pas surpris, mais disons sceptique. Je vais y aller comme ouais. Ça. Parce que là, je vais juste, avant de te laisser aller, là, on va faire un tour là, depuis la création, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'État officiel d'Israël. Là, j'en ai compté des plans de paix. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plans de paix. Donc, on est au 9e essai. Est-ce que c'est 9e et les buts, là?
Non, j'en serais extrêmement surpris. Ce qu'on voit, je pense, c'est plus un cessez-le-feu. C'est plus une pause qu'Israël s'impose plus ou moins délibérément. Là, soyons clairs, Israël aurait probablement continué le conflit si c'était juste de Netanyahou, du moins. Là. Il faut comprendre un truc là-dessus qui est un peu difficile à saisir depuis l'extérieur. C'est un peu contre-intuitif, mais la population israélienne est loin d'être derrière son gouvernement là, pour ce qui est des actions militaires actuelles à Gaza. Il y a eu une période, naturellement, là, après le 7 octobre 2023, où tu as eu une impulsion populaire, où tout le monde voulait la vengeance, voulait aller se battre à Gaza. Assez rapidement, là, après une douzaine de mois environ, tu as eu une réalisation à travers la société civile, mais aussi à travers même l'état-major militaire, que c'était pas possible d'accomplir les objectifs militaires tels qu'énuméré par Netanyahou. Là, on parlait l'éradication totale du Hamas, l'élimination de toute la menace terroriste à l'intérieur de la bande de Gaza. On parlait ensuite, on n'avait pas vraiment la porte de sortie pour les otages. On se disait éventuellement, on va les forcer à nous les redonner, mais il n'y avait pas de négociation crédible. Là, écoute, on réalise que, essentiellement, c'est les Américains qui ont fermé la fenêtre d'opportunité d'Israël. Depuis le début, eux, ils voient vraiment, là, c'est pour ça que le gouvernement est prêt à aller au-delà de ce que la population veut faire. Là, tu as des centaines de milliers, sinon des millions d'Israéliens qui manifestaient dans les rues, un peu partout dans les grandes villes, pour la fin de la guerre. Et ça, c'est vraiment excessivement important de le comprendre. La population était de plus en plus écœurée de tout ça. Le gouvernement continuait d'aller jusqu'au bout pour la simple et bonne raison que, garde, Israël voit son aventure au Moyen-Orient pas comme un truc de quelques douzaines d'années ou sur un horizon de 5 ou 8 ans. Il voit ça sur un horizon de centaines d'années, sinon des milliers. Fait que quand tu leur parles de la fenêtre stratégique qu'ils ont actuellement devant eux, d'un président américain, c'est le principal paramètre, dans le fond, là, qui détermine qu'est-ce qu'Israël peut ou ne peut pas faire. Ouais. C'est jusqu'où Washington lui permet d'aller. Fait que là, t'as un Washington, un président américain qui était prêt à regarder dans l'autre direction et dire « faites ce que vous voulez ». Fait que naturellement, Israël voulait aller jusqu'au bout, à l'extrême limite de cette fenêtre-là, peu importe ce que disait la population, peu importe ce que les manifestations que tu avais dans le public. Et là, les États-Unis viennent de refermer la fenêtre. C'est un peu attribuable aux actions d'Israël. Moi, je pense vraiment qu'Israël s'est tiré dans le pied avec cette histoire de frappe sur le Qatar. On a su par après, là, on avait parlé un peu de JC ensemble, on se demandait c'était quoi cette histoire-là, est-ce que les États-Unis avaient approuvé, est-ce qu'on essaie de cacher un peu l'implication. S'avère-t-il que non, les Américains étaient vraiment en colère contre Israël dans cette séquence-là. On a été un peu menés en bateau par Netanyahou. On a appris à la dernière seconde que la frappe avait lieu. Et là, d'ailleurs, t'as vu, on en parlait la semaine dernière, là, cet appel vraiment spectaculaire dans lequel on a forcé Netanyahou à s'excuser au Qatar. Fait que clairement, la patience américaine est en train de s'amoindrir envers Israël. Là, maintenant, Israël a senti que la fenêtre est en train de se refermer. Mais, garde, j'imagine qu'on va jaser là, de l'implémentation de ce deal-là. Moi, c'est là-dessus que j'ai des gros doutes, puis que je pense qu'on n'a pas fini l'histoire.
D'ailleurs, commençons avant d'aller vers le Hamas, commençons avec Israël. Ce que tu me dis, en fait, c'est qu'Israël, j'y vois dans des termes un peu bas, mais Israël est un peu le chien de poche. Là. Donc, du moment où le maître dit « coucouche panier », Israël n'a pas le choix. Mais on sait très bien que pour Netanyahou, il y a des enjeux majeurs. Là, lui, là, il est accusé quand même par l'ONU d'un génocide. Mm-hmm. Il y a des mandats d'arrêt internationaux. Même à l'interne, même du pays en Israël, c'est pas non plus le plus populaire. Donc lui, il sait très bien quand ça se finit. Pour lui, ça se finit pas. T'sais,
non, c'est ça.
Je suis pas certain qu'il y a pas un espoir même de Netanyahou et de sa gang qui sont pas en train de se dire « On espère tellement que le Hamas les envoie promener. » qu'on puisse finir la job.
Non, non, t'as mis le doigt dessus. T'as mis le doigt dessus absolument. Ça, c'est une évidence, c'est flagrant. Puis au début, c'est un soupçon. Là. Les premiers mois, on avait l'impression « On dirait que Netanyahou n'est pas sérieux dans sa tentative de négocier. » C'est presque comme s'il voulait que ça continue pour éviter justement des procédures judiciaires. Là, soyons clairs, là, c'est vraiment pas l'enjeu de Netanyahou, c'est vraiment pas les procédures à l'échelle internationale, notamment celle de la Cour pénale internationale. C'est une espèce de tribunal, surtout symbolique, là, pour ce qui est d'Israël, puisqu'on ne reconnaît pas ce tribunal-là. Même chose pour les États-Unis. D'ailleurs, Netanyahou était à la Maison-Blanche là, il y a quelques jours, puis même à l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'est absolument rien passé. On n'a pas eu d'arrestation, quoi que ce soit. Faut comprendre que la vraie menace pour Netanyahou, c'est plutôt à l'interne. C'est de savoir qu'est-ce qui va arriver avec les procédures criminelles qu'il y avait par rapport d'abord à l'histoire de corruption était avant son entrée au pouvoir là, dans le mandat actuel. Puis additionnellement, pour ce qui est du 7 octobre, il y a beaucoup de gens qui posent des questions à dire est-ce qu'on était au courant? Puis sinon, comment ça on ne l'était pas? Puis qui a su quoi à quel moment? C'est des questions tout à fait légitimes. On a des commissions d'enquête qui vont être déclenchées là-dessus. Et naturellement, Netanyahou est peut-être embarrassé par cette question-là. Maintenant, indépendamment de tout ça, moi, c'est là-dessus là, que je pense que ça vaut la peine qu'on aborde la logistique de ce deal-là. Là, on nous parle de libérer tous les otages.
Oui, mort ou vif.
Exactement. Et d'attacher ça avec un retrait graduel d'Israël. Et c'est là-dessus là, que c'est vraiment pas clair. À quelle vitesse Israël va se retirer? Israël s'est attaché lui-même, ou plutôt elle-même, des conditions quant à la menace terroriste. C'est-à-dire, tant qu'on a l'impression qu'il y a une menace, on peut garder une présence. Fait que c'est pas clair comment ça va être fait. Puis regarde comment ils ont fait ça. Là. Netanyahou, je crois bien, c'est un premier ministre. Il n'a pas le pouvoir de ratifier ces trucs-là indépendamment, ou du moins, il dit ne pas l'avoir. Il aurait probablement pu accepter puis s'arranger avec le gouvernement israélien après. Mais c'est surtout le gouvernement israélien qui fait chier en ce moment, là. Particulièrement la coalition de Netanyahou. Ça aussi, c'est un élément crucial dans l'équation. Netanyahou, c'est loin d'être le plus radical. On pourrait croire que oui, on se dit c'est un maudit radical israélien. Ah non, vraiment pas proche.
Il y a un de ses ministres qui lui,
ouais,
là, il est allé... Bezalel
Smotrich, ouais.
Il est allé
le ministre extrême droite.
Il est allé sur le parquet d'une mosquée pour prier pour la fin de Gaza. T'sais, lui, il est saucé.
Ouais. Puis c'est eux qui tirent Netanyahou à droite depuis le début. Ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel. Puis tu le vois notamment sur la question de la colonisation, mais aussi sur la question de Gaza, sur la question du Liban, etc. Netanyahou, c'est un des plus modérés de sa coalition. Pas dans la politique israélienne, t'as des partis de gauche, etc. Mais ils ne sont pas populaires. Netanyahou, c'est un des politiciens populaires les plus modérés. Fait que lui, 80% de ses problèmes politiques, c'est pas de naviguer, si on veut, la popularité avec la population israélienne, mais plus sa relation avec les autres membres beaucoup plus extrémistes et radicaux de sa coalition politique, qui vont le forcer à faire des moves parfois, écoute, hallucinants. Fait que là, tu vois son truc. On arrive avec l'entente de paix, ou plutôt l'entente tentative de paix, de cesser le feu. Et que fait Netanyahou? Il dit « Attends un peu, là. Faut que je fasse approuver ça par le gouvernement. »
Oui.
Fait que tout ça est encore conditionnel à ce que, justement, ce soit approuvé par le Parlement israélien. Et imaginons un scénario dans lequel le Parlement décide de le refuser. On est censé avoir un vote au cours des prochaines minutes, des prochaines heures. C'est très possible que ça s'accroche comme ça au Parlement. Et là, Netanyahou se retourne de bord et dit « C'est pas moi qui ai de mauvaise foi. J'ai fait mon possible. Je t'ai amené l'entente. Le Parlement veut pas bouger. » On continue à négocier.
Ben oui.
Donc là-dessus, c'est... un des moyens que pourrait utiliser Netanyahou pour ralentir l'implémentation de cette entente-là. Puis garde, on se parlait des ententes de paix tantôt, JC. C'est tellement bon le point que tu as commencé en mentionnant les multiples ententes de paix qu'on a essayé, ces processus de plusieurs points. La dernière fois, là, surtout, là, qui était vraiment un gros moment pour la paix dans le Moyen-Orient, c'était les accords d'Oslo. Bill Clinton avait essayé de mettre ça en place. Et Netanyahou, quand il est arrivé au pouvoir, écoute, ces accords-là ont été dénoncés à Israël par la droite qui disait « Franchement, vous allez faire la paix avec le Hamas, vous allez donner un État palestinien. » Le Hamas n'existait pas encore, en fait, à ce moment-là. On parlait de le PLO. On disait « Donc, vous allez donner un État palestinien, c'est reconnaître un peu un échec majeur pour Israël. On ne devrait pas avoir à coexister. » Et donc, Netanyahou, dans cet environnement politique-là, a pris le pouvoir et il se vantait en privé. Tu as même des vidéos de lui là, qui sont notoires, célèbres, de Netanyahou qu'il ne sait pas, mais qui est filmé et qui raconte « Ben, tu sais, les accords d'Oslo, là, je les ai implémentés selon ma propre interprétation.
Ouais. »
Puis effectivement, Netanyahou, il a tout fait pour saboter ça la seconde où il est arrivé et c'est un expert de ça. Et les Israéliens le savent. C'est ça qui est fantastique de la politique israélienne. Nous, on va regarder, par exemple, Mark Carney aller voir Trump puis licher la botte. Puis on va se dire « Wow, mais quel loser!
Ouais. »
Versus les Israéliens regardent Netanyahou aller licher la botte de Trump et sont comme « Let's go! » Il a compris comment ça fonctionne.
Mais je pense qu'on peut pas comprendre cette réalité-là d'être en Israël parce que, tu sais, là, tu me parles de Netanyahou, de ses radicaux, mais ces radicaux-là se sont aussi radicalisés à cause des autres radicaux l'autre bord qui sont très radicalisés. Je lisais la chronique de Joseph Facal. Tu sais, l'article 1 du Hamas, c'est la charia, c'est l'islam, c'est... toute notre vie est basée là-dessus. L'élimination des Juifs d'Israël. Fait que je peux bien comprendre, Benjamin, que si le Vermont voulait nous éliminer par la force en nous lançant des missiles, ça se peut qu'on se mette à détester les Vermontois.
Ah, absolument. T'sais, absolument. Donc... Maintenant, il faut quand même... t'as tout à fait raison. Puis c'est exactement ça qu'Israël veut. Et c'est ça qui est un peu embarrassant. C'est quand on revient un peu dans l'histoire, autour de 2005, quand on a eu la guerre entre le Fatah et le Hamas, là, à savoir qui allait diriger Gaza. C'est le Hamas qui a gagné cette guerre-là, à garrocher des membres du Fatah par les toits.
Oui.
Et on a su par après que Netanyahou et que le gouvernement israélien était directement impliqué dans ce moment-là dans l'appui clandestin du Hamas parce qu'on les avait identifiés comme étant le groupe le plus radical et clairement un interlocuteur illégitime en termes de la négociation.
On voulait pas vraiment négocier, oui. On voulait les éliminer.
On voulait pas d'un interlocuteur crédible parce qu'on venait juste de voir justement là, ce qui est en train de se passer. C'est qu'on avait, une autorité palestinienne qu'on considérait comme interlocuteur acceptable. On a fait des négociations, on est arrivé à un processus de paix et ensuite, boum, la balle tombe dans le camp d'Israël. Et là, c'est à eux de prendre des concessions, puis c'est à eux d'aménager l'espace pour les Palestiniens, puis d'accepter de faire un certain recul au niveau territorial. Et là, soudainement, Israël a compris très vite, attends un peu, si on négocie avec des malades, il n'y a personne qui va s'attendre de nous à ce qu'on fasse la paix. Tout le monde va dire, franchement, vous négociez avec des malades, c'est normal. Et donc, oui, Israël a encouragé la prise de pouvoir du Hamas. Et même, si tu veux aller plus loin là-dessus, on a su ça voilà, à peu près deux ou trois mois tout au plus. On a su, puis ça a été confirmé par Netanyahou lui-même, en fait, parce que quand je te parlais tantôt de l'état-major israélien qui débarque, là, puis qui commence à dire que ça va trop loin, puis ben, t'as un ancien chef du renseignement israélien, du Shin Bet, qui est sorti publiquement pour dire « Là, moi, je peux pas endosser ça. Je vais vous dénoncer ce qui est en train d'arriver. On est en train d'appuyer des groupes criminels à l'intérieur de Gaza avec des armes, des munitions, de l'information, de l'appui logistique pour s'assurer de foutre la merde. » Et là, ces groupes criminels-là, directement appuyés par Israël, se faisaient informer quelques minutes avant à quel endroit l'aide humanitaire allait débarquer. Fait qu'eux autres arrivaient, volaient, tuaient tout le monde, ramassaient l'aide humanitaire, s'en allaient. Et là, la Hamas avait l'air d'une espèce de bande de clowns. Et là, la Hamas n'est pas capable d'avoir de l'autorité sur son territoire. Et là, vous avez des bandes criminelles. Et on a su que c'était Israël qui les finançait, qui les aidait. Puis là-dessus, il y avait un doute, une couple de mois. Ils disaient, ben voyons, à chaque fois que la police court après ce monde-là, à chaque fois qu'il y a des services d'urgence qui courent après eux autres, les services d'urgence se font bombarder. Et c'est presque comme si
qui était protégé par les drones israéliens. Ben effectivement, les drones israéliens menaient des activités de protection puis d'interdiction contre les services d'urgence qui empêchaient ces groupes criminels-là. Fait que ça, c'est un élément qui est essentiel à comprendre. C'est qu'Israël, depuis le début, là-dessus, travaille très fort à délégitimiser toute forme de négociation puis d'opposition avec Gaza. Fait qu'on essaie d'en faire un infréquentable.
Mais en même temps, je dois dire que le Hamas, c'est mon opinion, là, est infréquentable. T'sais, je dis, tu peux pas négocier non plus avec des gens qui sont sous la loi d'un Dieu qui n'est pas le tien. Là, tu te dis, écoute, je peux pas avoir d'arguments normaux.
T'sais, ça marche.
On voit ici que les demandes... Là, et d'ailleurs, le Hamas a accepté. Moi, c'est là où j'ai bien hâte de voir. Là, mais une fois tous les otages revenus, les membres du Hamas s'engagent à respecter une coexistence pacifique, seront désarmés. Ceux qui veulent quitter le territoire pourront y aller en toute liberté. Mais là, la question qui me vient, mettons que c'est vrai, mettons que tout ça arrive et qu'on se ramasse demain avec une bande de Gaza libérée du Hamas et ceux qui sont encore là vivent de paix et de fleurs, là, puis que tout le monde est prêt à s'aimer. Le Hamas, tu comprendras que je fais des liens boiteux, là, mais tu vas comprendre. Le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est Al-Qaïda, c'est le califat. Voir les frères musulmans, tu sais, c'est ceux qui quitteront, ceux qui resteront, ne perdent pas leur identité, leur valeur, leur religion, leur foi. Est-ce qu'on n'est pas en train, juste encore une fois, comme c'est arrivé trop souvent, de pelleter le problème dans tout le Moyen-Orient et que dans 10, 15, 20 ans, on aura encore un nouveau groupe de crinqués qui va recommencer à se faire sauter au nom d'Allah? Tu sais, c'est... Pour moi, là, c'est presque un cul-de-sac. En fait, c'est un cul-de-sac.
Bien, absolument. Puis là-dessus, moi, je te dirais, il y a deux points qui valent la peine d'être relevés. Premièrement, c'est pour ça que les pays arabes veulent rien savoir depuis des années de contribuer à une solution dans cette région-là ou même à prendre des réfugiés.
Ils vont ramasser le problème.
Ben exactement. Eux voyaient ça comme, ben dans l'éventualité où des cellules du Hamas ou encore des idéologies radicales se développent chez nous, ça va justifier des frappes israéliennes. Israël va être en mesure de venir nous agresser ou nous envahir, puis ce serait problématique. Fait que ça, depuis un moment, là, il y en a plusieurs, des pays arabes veulent rien savoir, particulièrement les États du Golfe. Ils veulent se tenir loin de ça, puis détestent le radicalisme encore plus que les Occidentaux. Maintenant, il y a un autre élément qui vaut la peine d'être relevé, puis c'est la dissension entre les deux groupes de leadership du Hamas. Tu mentionnais tantôt à dire, voyons, c'est pas très crédible l'idée que le Hamas se retire comme ça puis qu'on se met à chanter Kumbaya.
Ben oui.
Ben absolument. En fait, ce qu'on découvre en ce moment, puis il y avait un article fantastique du New York Times là-dessus la semaine passée qui nous rapportait que les deux groupes de leadership du Hamas, le leadership politique qui est au Qatar, à Doha, qui mène les négociations, ne s'entend pas du tout en ce moment avec le leadership militaire qui, lui, est à Gaza en train de mener des opérations contre les forces de défense israéliennes. Et là, apparemment que le gros point sur lequel ça accroche, c'est justement sur la question du désarmement, où là, le leadership militaire dit « Êtes-vous des clowns, vous autres, dans vos uniformes, vos cravates à Doha, de penser que si on lâche les armes, la guerre va s'arrêter? Ça veut juste dire qu'on va se faire éradiquer par Israël ou vice-versa. » Donc là-dessus, il faut comprendre que ce qui est négocié à Doha, au Qatar ou en Égypte, en l'occurrence, dépendamment de la séquence de négociation, c'est toujours sujet à des tractations à l'intérieur du Hamas. Puis vois-tu, on se souvient de la fameuse frappe sur le Qatar quand on a décidé de les bombarder.
Ouais.
Puis tu me disais tantôt, on dirait presque que Netanyahou ne veut pas négocier.
Ben non.
Ben moi, je pense que c'était aussi explicite que jamais à ce moment-là. Les renseignements israéliens ont dû avoir de l'information comme quoi on s'entendait pour avoir une conclusion, un cessez-le-feu, que les deux camps allaient se rassembler, probablement qu'on allait en venir avec une fin plus positive. Et on a décidé de les bombarder pour empêcher ça. Parce qu'on sait depuis le début que, justement, c'est une diplomatie interne aussi à l'intérieur du Hamas. Puis on s'était dit, écoutez, on va essayer de se ranger du côté des plus extrêmes, naturellement.
C'est à suivre. Regarde, c'est une histoire sans fin, pour vrai. Tu sais, c'est pas une figure de style. C'est vraiment une histoire sans fin. Merci, Benjamin. Toujours un plaisir. Puis écoute, on va suivre ça. On verra si on chantera Kumbaya ou s'il y aura d'autres choses. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Salut, bye. Benjamin Tremblay, que vous pouvez retrouver sur son channel YouTube, 7 jours sur Terre. Allez voir ça, des grands reportages, des documentaires, de l'actualité, de la géopolitique. C'est le meilleur vulgarisateur de toutes ces histoires-là que je connais. Fait que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. On revient.
Willette. Non. En direct. On revient dans pas long. Radio X.